Bonjour à tous, bonjour Jean Jouzel, bonjour Baptiste Denis. Bienvenue à cette conférence, une conférence éco organisée par la librairie Mola et par Cap Science. Dans ces conférences, on invite des écrivains, des scientifiques, des explorateurs qui ont tous quelque chose à nous dire du monde actuel. Ce soir, nous allons avoir une lecture du monde sous l'angle du changement climatique au travers de l'ouvrage que vous avez publié ensemble, que je vous montre ici, qui est ici aussi, Climat, parlons vrai, aux éditions François Bourin. Alors Jean Jouzel, je vous présente pour tout le monde, mais il n'y a pas vraiment besoin, sauf qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Vous êtes ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CEA. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière à l'étude de l'évolution du climat au travers de l'analyse des glaces polaires. En 2012, vous avez reçu le prix Wetlessen, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui. Oui. Très bien.
Considéré comme le Nobel des sciences de la Terre et de l'univers, vous avez aussi, même si c'est rare que vous le disiez dans vos bios, reçu avec l'ensemble des membres du GIEC, été reconnu par le prix Nobel de la paix, décerné au GIEC en 2007, c'était avec Al Gore aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Baptiste Denis, quant à vous, vous êtes journaliste, chargé de la veille médiatique au ministère de la Transition écologique et solidaire. Comme ça qu'on dit aussi. Vous êtes également auteur d'un roman et d'un essai, Message pour la planète, paru en 2019. Vous êtes également élu local, conseiller municipal à la Garenne-Colombes. Alors, à la lecture de vos deux parcours, on voit tout de suite ce qu'elle a pu avoir de féconde entre un scientifique, mondialement reconnu, un journaliste, élu local de terrain, déjà, rien que ça, une belle confrontation. Deux générations qui dialoguent. À l'heure où les questions de justice générationnelle, et je pense qu'on en parlera un petit peu, deviennent de plus en plus prégnantes. Donc, dans votre ouvrage, ce qui m'a intéressé, c'était Parlons vrai. Climat, parlons vrai. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment des données scientifiques, mais on comprend surtout mieux les mécanismes de l'action, ou mieux les mécanismes de l'inaction jusqu'à maintenant. Et vous décomposez aussi les mécanismes de l'action future et les nécessités qu'on va essayer, enfin les mécanismes et l'urgence de mettre en place ces mécanismes pour qu'on arrive à adresser l'enjeu primordial qu'est le changement climatique. Donc dans un premier temps, je suis désolé pour cette intervention un peu longue, après c'est vous qui allez parler, je vous promets. Dans un premier temps, je vous propose que nous parlions de l'histoire récente jusqu'à maintenant et de vos regards sur les dynamiques qui sont à l'œuvre et les parties prenantes. Tout d'abord, les scientifiques, ils ont été les lanceurs d'alerte il y a quelques décennies, 1990. Ils sont au cœur du diagnostic, mais jusqu'où doivent-ils aller ? Vous soutenez qu'ils ne doivent pas être politiques, en tout cas, Jean Jouzel, oui, vous un peu moins.
Je vais voir.
Mais par contre, je trouve que votre livre est éminemment politique.
Oui, allez, je commence alors.
Bah, allez-y.
Non, merci d'abord, bonsoir, et puis merci à... d'être ici à vous tous. Merci à Baptiste aussi, parce que quand même, cette idée de dialogue intergénérationnel, elle vient de Baptiste, elle ne vient pas de moi. Donc, merci. Donc, sur cette question de la place des scientifiques, d'un côté, je suis très attaché à la mission du GIEC. C'est-à-dire que la mission du GIEC, donc ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, elle est clairement de donner aux décideurs politiques les arguments pour qu'ils prennent les décisions. Il n'est pas de faire des recommandations, ni d'ailleurs vers le monde scientifique, ni vers le monde politique, ni vers le monde économique. C'est donner les éléments aux décideurs politiques et vers qui sont, disons, où se retrouvent les décideurs politiques. C'est dans ce qu'on appelle la Convention climat. Donc chaque année, il y a ces réunions qu'on appelle les conférences des partis. Et effectivement, sur le papier, ça marche bien. Quand on regarde l'accord de Paris, donc ce sont les décideurs politiques qui sont... dans l'accord de Paris, il s'appuie effectivement sur le cinquième rapport du GIEC. Alors, dans les textes, c'est pas mal, mais dans la réalité, nous y reviendrons, on est loin du compte. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est le rôle du scientifique. Mais je suis aussi des scientifiques, je ne vais pas être trop long, qui, effectivement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aussi que nous sortons de notre tour d'ivoire. Donc, je suis aussi citoyen et, effectivement, je me suis engagé dans beaucoup d'autres choses. Bon, d'abord, quand même... Baptiste n'était pas encore élu quand on a commencé le livre. Donc, c'est après qu'il a été élu. Donc, et moi, je me suis engagé aussi après, je pense. Donc, j'ai présidé le comité de soutien d'Anne Hidalgo. Voilà. Et voilà. Donc, je me suis engagé d'une certaine façon politiquement. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup d'interactions avec les décideurs politiques. C'est vrai. Donc, je pense que ça fait aussi partie de nos missions.
Mais par contre, vous êtes... Alors c'est vrai que Baptiste Denis n'était pas encore élu, maintenant il est au cœur de la machine. Vous êtes très dur sur la relation entre les scientifiques et, et l'écoute qu'ils devraient avoir du monde politique. Et alors, particulièrement en France, dites-vous.
Oui, il y a effectivement une écoute du monde politique. Quand on regarde en France la loi, donc on parle de réchauffement climatique, on a une loi qui est la loi énergie-climat, objectif neutralité carbone à horizon 2050, c'est parfait. Dans les textes, c'est parfait. Dans la réalité, eh bien, on a eu la Convention citoyenne avec, en gros, ces 150 citoyens dont la mission était de faire des propositions pour que la France respecte ses objectifs à horizon 2030. De diminution des gaz à effet de serre d'au moins 40% dans l'esprit de justice sociale. Ça veut dire simplement que, disons, le Premier ministre, dans le cas, et Emmanuel Macron, c'était quand même une sortie des gilets jaunes, admettent qu'on est loin du compte en termes par rapport aux objectifs. Donc c'est bien d'afficher des objectifs, et c'est très décevant. Et je me suis beaucoup impliqué dans la Convention citoyenne, je suis extrêmement déçu actuellement par la façon dont les propositions de la Convention citoyenne sont traitées, parce que le sans-filtre... mis à un très haut niveau par Emmanuel Macron, se décline au niveau de chaque ministère par, chacun y va de son petit discours en disant « Oui, je veux bien les mesures. » Il y a 146 mesures, mais bon, pour mon ministère, il n'y en a pas d'intéressantes. Donc, à peu près. Hein, donc là, ça commence à bien faire, c'est vrai. Là, quand même, bon, je pense qu'on ne peut pas... on n'a plus confiance dans les politiques si Emmanuel Macron ne tient pas vraiment très fermement son engagement d'un sans-filtre par rapport aux propositions citoyennes. Il en a mis trois de côté, les citoyens l'ont accepté, mais les autres ne devraient pas être traités comme elles sont actuellement par différents ministères.
Même sentiment sur...
Oui, même sentiment. Alors déjà, bonsoir à tous et merci à tous d'être venus malgré le contexte sanitaire. C'est vrai que tous ces rassemblements deviennent un petit peu difficiles, donc merci beaucoup d'être venus, et malgré la pluie aussi quand même. Pour revenir sur ce que disait Jean, après, je pense que c'est générationnel et aussi du fait que je ne suis pas scientifique. Je pense que ma génération, moi, aimerait que les scientifiques s'impliquent plus dans la vie politique, car pour nous, politique égale concret. Ce sont les décideurs, ce sont eux qui ont le pouvoir de mettre en place les politiques climatiques. Et avec Jean, on discutait une fois du poste de chief scientist. Le chief scientist, il existe au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et c'est une personne en fait qui est en lien direct, donc soit avec le Premier ministre britannique ou avec le président américain, et qui va conseiller directement sur les questions climatiques. Donc on voit qu'aux États-Unis ça a eu vachement de succès puisqu'il sortirait de l'accord de Paris. Donc mais en France, ça, pourquoi pas, on avait dit pourquoi pas Valérie Masson-Delmotte, voilà, qui est la référence sur ces sujets-là en France. Pourquoi pas? Après, pour faire un comparatif avec aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire depuis plusieurs mois, qui est extrêmement grave. Et c'est vrai qu'il y a des épidémiologistes, des médecins, de tout ce que vous voulez, partout sur les plateaux télé, qui alertent sur la dangerosité de ce virus. Mais des conséquences du réchauffement climatique, il y en a aujourd'hui tous les jours partout dans le monde. Et moi, je pense que ma génération aimerait voir des climatologues partout dans les médias, autant que les médecins, pour nous expliquer pourquoi est-ce que la tempête qu'il y a en ce moment en Bretagne, c'est le réchauffement climatique, pourquoi est-ce qu'une éruption, ça peut être le réchauffement climatique, la montée des eaux, la fonte des glaces, etc. etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles dans la presse écrite, malheureusement la presse écrite se lit de moins en moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la radio, à la télé, on manque beaucoup de ces informations-là. Donc, il y a un PDF que je vous conseille qui a été fait par Reporters d'Espoir qui parle justement de la place du climat dans les médias. Et c'est vrai que ça reste quand même assez faible. Donc oui, en tout cas, pour ma part, j'aimerais que les scientifiques aient beaucoup plus de place à la fois médiatiquement et politiquement. Et pourtant, les scientifiques ont eu de la place dans les comités politiques, puisque pour la taxe carbone, par exemple, au Grenelle de l'environnement, il y avait des scientifiques qui étaient autour de la table. Et on voit que la taxe carbone, elle a été abandonnée. Le Grenelle de l'environnement, il a été abandonné. Et comme le disait Jean, dans les textes, tout est parfait. Même l'accord de Paris l'est, techniquement. En fait, il y a des déclarations d'intention qui sont excellentes. La neutralité carbone en 2050 dans l'accord de Paris. La Chine, qui vient d'annoncer la neutralité pour 2060. C'est 10 ans après, mais quand la Chine annonce la neutralité carbone, peu importe l'année, on prend, clairement. Donc, si Joe Biden est élu aux États-Unis, il reviendra dans l'accord de Paris. Toutes les déclarations d'intention sont excellentes, mais les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Donc, ça ne reste que des déclarations d'intention.
Et du coup, en fait, ce décalage entre la promesse et l'action, ça n'a rien de nouveau. Hein. C'est un sentiment commun, connu. Par contre, ça fait monter une colère forte dans la jeune génération. On l'a vu avec les marches pour le climat. Alors, j'ai trois questions. Alors, d'abord, la première, c'est quelle est votre lecture de ce mouvement ? Alors, peut-être Baptiste Denis d'abord et ensuite Jean Jouzel. Votre lecture de cette mobilisation des jeunes. Ensuite, la question de la désobéissance civile. C'est-à-dire à quel moment ça suffit plus de défiler et à quel moment, quand on en a... À quel moment peut-on comprendre le fait que la colère dépasse le simple mouvement pacifique parce que ce ras-le-bol entre les textes parfaits, la Convention citoyenne qui, sur le papier, est assez bien conçue, rend des propositions qui sont les siennes, et puis tout d'un coup, poum, patatras, parce que dès qu'on rentre dans la machine, elle se fait broyer par la machine. À quel moment ces contestations peuvent légitimer une désobéissance, ou pas d'ailleurs ?
Alors déjà, sur les mobilisations en elles-mêmes, j'ai beau être jeune, je suis très critique envers ces mobilisations. J'ai participé aux premières parce que les marches pour le climat parlaient de climat. C'était le sujet, c'était le climat, parce que le sujet aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, c'est ça. Il faut atteindre la neutralité carbone en 2050, sinon la deuxième partie du siècle ne sera plus vivable, non seulement pour les générations de mes parents, mais aussi pour la mienne et les suivantes. Ce que je reproche aujourd'hui aux marches pour le climat, déjà, c'est qu'il n'y en a plus. Que ce soit la crise sanitaire ou avant, hein, déjà ça faisait longtemps qu'il n'y en avait plus, et ces marches pour le climat ne parlaient plus de climat. Tout était un petit peu mélangé, tout le monde y venait un peu à sa sauce. Il y avait un côté, à ma droite il y avait la CGT, à ma gauche il y avait les Gilets jaunes, puis enfin, tout le monde revendiquait un petit peu son truc, et on avait complètement perdu de vue le but climatique. La première marche, je me souviens, qui s'était terminée place de la République, il y avait 15 ou 20 stands et on parlait que de climat, quoi. Il n'y avait que ça, c'était une marche pour le climat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, la dernière en date, c'était à République aussi, c'était le deux mélanges qui disait génération Adama et génération climat. Mais j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de tout mélanger, quoi. Enfin, on est là pour parler de climat et pas d'autre chose. Donc j'aimerais que ces mobilisations reprennent un peu de leur sens originel. Après, sur la désobéissance civile, là, pour le coup, on était assez d'accord. Voilà, je suis assez loyaliste. C'est vrai que la désobéissance civile, ce n'est pas trop mon truc, on va dire. Après, une fois que les textes sont... Après, c'est peut-être très naïf de ma part, mais maintenant que les textes sont bien écrits, oui. Et la désobéissance civile, pour moi, n'est pas une solution, parce qu'en fait, ça ne fait que braquer chacun dans son camp. Et je ne pense pas que ça fasse vraiment avancer les choses.
Oui, donc moi, on partage. J'ai aussi participé aux marches pour le climat, sauf une, mais la dernière à laquelle j'ai participé, il y avait les Black Blocs. Voilà, donc c'était vraiment c'était très dur la dernière. Hein, elle a été arrêtée. Voilà, donc moi aussi ça m'a déçu. Donc, mais ce que je souhaite dire, c'est que la mobilisation des jeunes a été extrêmement importante. A eu déjà des résultats, même si elle a été, enfin, disons en tout cas, les premières marches et les premières manifestations, y compris les grèves d'ailleurs, c'est ce qui a amené Jean-Michel Blanquer à réfléchir aux programmes scolaires et à modifier, si les programmes scolaires vont être modifiés à partir de l'année prochaine, disons, dans le secondaire, mais aussi dans le primaire, disons à l'école, au collège et au lycée, c'est vraiment à cause de la mobilisation des jeunes. Ça a été la réponse du ministère de modifier les programmes, d'y réfléchir. Et bon, c'est, disons, dans la foulée un petit peu, notre ministre de l'enseignement supérieur et Frédéric Vidal, et l'innovation, parce que si je dis jamais l'innovation, et Frédéric Vidal, disons, a aussi compris qu'on devait faire quelque chose dans l'enseignement supérieur. Donc, actuellement, je préside un groupe de travail dont l'objectif est de faire des recommandations sur ce qu'il faudrait faire pour que, disons, tous les jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, quelle que soit la filière, quelle que soit leur discipline, sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de transition écologique au sens large. Pas simplement de transition climatique, mais je dirais bien. Et bon, ça, c'est la mission actuellement. Et si, là aussi, je veux dire que si Frédéric Vidal a, disons, à essayer de proposer cela, en tout cas, ou le propose, c'est vraiment la mobilisation des jeunes qui en est à l'origine, et y compris de certains étudiants. Voilà, donc la mobilisation des jeunes a été très fructueuse déjà, donc moi j'encourage à ce que je poursuive. Je ne suis pas non plus... j'avais accepté le principe d'aller témoigner, donc maintenant il y a de plus en plus de poursuite. Donc moi j'avais été invité à témoigner, j'avais accepté le principe. Donc il y a des jeunes Suisses qui sont rentrés dans une banque et qui ont joué au tennis. Donc ils ont été poursuivis par, qu'il y a un procès qui a été fait par la banque aux jeunes. Les jeunes avaient gagné dans un premier temps, il y a eu appel. Et donc, j'ai pas pu aller témoigner parce que je suis au Conseil économique, social, environnemental. Et ce jour-là, il y avait une séance plénière sur la loi, sur la programmation pour la recherche. Donc, j'avais accepté le principe. Par contre, là, on m'a sollicité pour aller témoigner. Donc, c'est aussi des jeunes qui ont décroché le tableau d'Emmanuel Macron. J'ai pas été enthousiaste. J'ai pas dit que j'irais pas, mais donc finalement, voilà. Donc, je suis aussi comme Baptiste très légaliste, et donc à un moment, je pense qu'il y a, on peut aussi, ce que je veux dire, c'est que les manifestations très simples du début ont été, finalement, c'est celles-là qui ont porté leurs fruits. Hein, c'est pas les manifestations où il y a eu, c'est pas forcément Extinction Rébellion ou bien ces manifestations où il y a eu de la, disons quand même pas mal de casse qui ont porté, qui ont fait le mouvement. Hein, donc des manifestations pacifiques peuvent être très, vraiment productrices d'action. Voilà.
Productrice d'action, et puis quand on lit votre ouvrage, à un moment donné, on voit tout ça, on voit tous les comités, on voit tous ces mouvements. Et puis vous nous dites aussi qu'on est exactement au même endroit que ce que les scientifiques avaient dit en 90 si on faisait rien. Alors moi, ça m'a scotché, c'est-à-dire que en 90, alors j'aimerais que vous nous expliquiez aussi même ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, mais pour que tout le monde comprenne bien, en 90, première alerte, changement climatique, je caricature, vous allez détailler, mais première alerte, si on fait rien, les gars, ça va déraper, et en 2020, on sera là. Ben, on est exactement là, en fait.
Oui, c'est quand on regarde, donc on peut parler, donc les premières simulations climatiques, c'est les années 80, 70-80, ils concrétisent dans le premier rapport du GIEC en 90. Et effectivement, quand on regarde ce qui était anticipé comme... en termes de réchauffement climatique moyen, on est sur un rythme de 2 dixièmes de degré par décennie. Hein, c'est ce qui était envisagé. Alors, ce n'est pas année après année, c'est décennie après décennie. Mais l'accélération, le fait que le niveau de la mer... l'élévation du niveau de la mer s'accélère, c'est aussi observé. C'est aussi observé que, cette amplification dans la région polaire, le fait qu'en région polaire, le réchauffement soit deux fois plus rapide, deux à trois fois plus rapide qu'en moyenne globale, c'était quelque chose qui était déjà observé, mais aussi où les modélisateurs avaient dit que ça se poursuivrait, c'est bien le cas. Et c'est vrai aussi, là, ça date un peu plus, pas des années 90, plutôt des années 2000, cette intensification des événements extrêmes qui est perceptible, hein, elle était vraiment annoncée dans le troisième rapport du GIEC au début des années 2000. Donc, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment le climat, les grands traits du climat, peut-être pas les détails, les grands traits du climat tels que, les modélisateurs l'envisageaient il y a 30 ans. Et je dis souvent dans la foulée que, il aurait fallu effectivement prendre au sérieux la parole des scientifiques, et ça nous invite à la prendre au sérieux maintenant. Disons que les projections faites à horizon 2050 doivent être prises au sérieux, et celles faites pour l'après 2050, surtout celles faites si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique ou pas suffisamment, doivent aussi être prises au sérieux. Même si l'accord de Paris était respecté sur la période 2020-2030, on est sur des trajectoires de réchauffement de 3 degrés et demi d'ici la fin du siècle.
On va y venir. Mais juste avant d'y venir, vous dites tous les deux que globalement, le climato-scepticisme a gagné jusqu'à l'heure toutes les batailles. C'est bien ça ? Alors, vous décomposez aussi quelles sont les différentes formes de climato-sceptiques. Je pense que c'est important de revenir dessus. Oui. Ça m'intéresse aussi de savoir où est-ce qu'on en est en termes de climato-scepticisme. Parce qu'on a eu des grands débats vrai-faux, il y a eu des irréductibles, il y a les réseaux sociaux qui en font des caisses aussi. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui vous fait dire que jusqu'à maintenant, le climato-scepticisme gagne la bataille, pas forcément la guerre, mais les batailles ?
Alors, il y a plusieurs formes de climato-sceptique. Et dans le livre, on dédie un chapitre à la différence entre climato-sceptique et collapsologue. Donc, climato-sceptique, ce sont les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique. qui pensent que le réchauffement est 100% naturel et que l'homme n'influe pas dans le réchauffement climatique, alors qu'il a été prouvé scientifiquement 1000 fois que l'homme était quand même largement majoritaire dans les émissions de gaz à effet de serre. Les collapsologues, il y en a plusieurs aussi, ce sont des personnalités qui, à une certaine échelle, prédisent la fin de notre espèce du court terme au long terme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les collapsologues un peu prédicteurs de l'apocalypse qui pensent que dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus rien. Et des collapsologues un peu plus modérés, on va dire, qui se basent sur les rapports du GIEC directement. Je pense à Pablo Servigne, par exemple, qui a écrit donc 2 livres, dont un qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », qui est devenu une référence maintenant dans la collapsologie, mais la collapsologie modérée. Voilà, où il explique par A plus B comment, oui, le système peut s'effondrer, mais que c'est pas sûr et on sait pas à combien de temps. Donc, bon, c'est pas très précis, mais c'est aussi une forme de collapsologie. En tout cas, pour revenir sur la question initiale, donc, qui est plutôt sur le climato-scepticisme, aujourd'hui, des climato-sceptiques, il y en a plus beaucoup, quand même. Il y a plus beaucoup de gens que vous croisez dans la rue et qui vous disent « je ne crois pas au réchauffement climatique ». Ça existe, mais il y en a plus beaucoup. Il y en a encore aujourd'hui sur les plateaux télé, dans les radios. Il y a une revue qui s'appelle Nature, qui a publié une étude qui a montré qu'il y avait une majorité de climato-sceptiques sur les plateaux télé et les plateaux radio par rapport aux climatologues. Donc ça aussi, ça entretient un petit peu le sentiment de défiance et c'est un peu embêtant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que les scientifiques, parfois, doivent se battre pour démontrer quelque chose qui l'a déjà été plusieurs fois. C'est-à-dire que quand des scientifiques, comme je vais encore citer Valérie Masson-Delmotte ou Jean Jouzel, viennent sur des plateaux télé et qu'on leur pose la question voilà, est-ce que le réchauffement, c'est comme ci, c'est comme ça, mais vous êtes sûr ? Voilà, ça entretient aussi un petit peu ce sentiment de défiance. Et j'ai l'impression qu'on revient 30 ans en arrière. Voilà, par exemple, si vous allez sur le site de l'INA, en 1989, il y a des interviews de votre serviteur à ma droite qui expliquent exactement la même chose qu'aujourd'hui, mais quasiment au mot près. Et donc, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre des années avec ce climato-scepticisme et que le climato-scepticisme, ça représente assez peu de monde, mais qu'il est très néfaste dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, j'ajouterais deux. Enfin, pour moi, il y a deux autres formes de climato-scepticisme. Il y a ceux qui, d'un point de vue philosophique, dénie la capacité de l'homme à modifier son environnement. Donc, disons, ça a été longtemps ça. Et puis, il y a, pour moi, un climato-scepticisme politique qui est celui de Donald Trump. En gros, si croire à la réalité du réchauffement climatique était bénéfique à sa politique, il y croirait. Je veux dire, il n'a aucune opinion sur le réchauffement climatique, mais il comprend que s'il accepte la réalité du réchauffement et la réalité de l'action humaine, ça l'oblige à des discussions au niveau bilatéral, enfin au niveau multilatéral, justement au niveau planétaire, et ça l'oblige à ce qu'il prend pour des contraintes pour son économie. Donc c'est ça le moteur. Donc il est avant tout, disons que l'ultralibéralisme que professe Donald Trump n'est absolument pas compatible avec je dirais pas la croyance, mais le fait d'accorder du crédit à la réalité du réchauffement climatique. Parce qu'on voit bien que dès qu'on accepte que les activités humaines impactent notre environnement à l'échelle planétaire, eh bien, ça force à un peu ouvrir l'esprit vers les autres, ce que ne sait pas faire Donald Trump. Mais, je terminerai là-dessus, si effectivement les États-Unis, non, même si Donald Trump était élu, ce que je ne souhaite pas, eh bien, je crois que le simple fait que la Chine ait annoncé un objectif de neutralité carbone en 2060 va forcément obliger Donald Trump à modifier sa politique. Je veux dire, politiquement, c'est pas tenable pour les, parce que économiquement, je veux dire, ce n'est pas tenable pour les États-Unis, parce que je dis souvent les mêmes choses, mais je pense qu'en termes de leadership économique de cette planète, si on prend l'Europe, la Chine et les États-Unis, il y aura peut-être l'Inde qui émergera dans 10-20 ans, ou d'autres blocs, ou l'Afrique, par exemple, on ne sait pas. Mais en tout cas, au niveau de ces blocs, c'est celui qui prendra la lutte, le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique qui, économiquement, gagnera à échéance de 10-20 ans parce que justement cette transition, elle est inéluctable. Les jeunes d'aujourd'hui n'accepteront pas plus ou 4, plus 4 ou plus 5 degrés. Donc, et elle reste techniquement possible. Donc, moi, je pense qu'économiquement, ce n'est pas tenable pour un pays de continuer à, disons, à être climato-sceptique, en tout cas à mener une politique finalement niant la réalité du réchauffement climatique et tous ses, disons, conséquences économiques, parce qu'il y a plein de développements. Donc, c'est un peu aussi ça qui m'intéresse. Donc, c'est une forme de climato-scepticisme qui est aussi, disons, de circonstances, je dirais. Hein, voilà. Si...
Est-ce que, du coup, on n'est pas tous des petits Trump, en fait ? C'est-à-dire que nous, dans notre dans mes arbitrages...
C'est ce qu'on a dû dire, hein, tu peux le dire, Baptiste. On a dû dire ça dans le livre. Peut-être pas des petits Trump, mais qu'on était tous concernés, quand même.
On va pas non plus insulter tout le monde. Mais quelque part, au fond de nous, on dit qu'on est tous un peu climato-sceptiques. Parce que si on ne l'était pas, on aurait agi beaucoup plus tôt. Voilà, on sait qu'aujourd'hui... Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait que chaque personne vivant sur Terre émette 2 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, un Français moyen, c'est 11,6. Donc 6 fois plus que ce qu'il faudrait. Donc, et pour réduire, pas 6 fois moins, mais pour réduire au moins un petit peu, c'est pas difficile. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est se loger, se nourrir, se déplacer. Quand on vit en milieu urbain, ici à Bordeaux, il y a le tramway, il y a... Voilà, on peut se déplacer autrement qu'en voiture. Quand on voyage par avion, et ça on l'expliquait, on ne dit pas qu'il ne faut plus jamais prendre l'avion, ça n'a aucun sens, il faut aussi aller voir le monde. Mais on peut le prendre moins, on peut manger moins de bœuf que d'habitude. Voilà, tout est dans la proportion, en fait. Et on peut réduire chacun notre empreinte carbone, et c'est vrai qu'au final, changer ses habitudes, c'est contraignant. Voilà, il n'y a pas toujours l'offre qui suit, il n'y a pas toujours la demande non plus. C'est pour ça qu'on sous-entendait qu'on avait tous une petite part de climato-scepticisme en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous climato-sceptiques, heureusement.
Non. Il suffit pas de savoir pour agir. C'est vrai, c'est quand même, en ce cas, pour agir au niveau où il le faudrait. Moi, y compris, ça vaut pour moi aussi. Je veux dire, c'est pas une accusation vis-à-vis des autres, mais c'est quand même...
Oui, je considère qu'on est tous climato-sceptiques au sens où si on ne fait pas tout pour une urgence dont on considère qu'elle est importante, on est...
Effectivement.
Voilà. Dans cette deuxième partie, maintenant, j'aimerais qu'on a beaucoup parlé de jusqu'à... Enfin, beaucoup, pas assez, parce qu'on est vraiment limité dans le temps, mais jusqu'à maintenant où on en est, donc la conclusion, c'est qu'on en est là où on avait dit qu'on y serait s'il ne se passait rien, donc on y est bien là. Maintenant, on va parler un peu plus de prospection, c'est-à-dire que vous mettez... mettez 2030 comme une espèce d'horizon pivot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi 2030 ? Qu'est-ce qui est censé se passer en 2030 ?
Oui, alors, disons, pourquoi 2030 ? C'est parce que d'abord, c'est le cadre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, ce sont des objectifs à horizon 2030. En fait, l'accord de Paris, c'est 2020-2030. Disons, il va vraiment se mettre en route, mais enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de conférence climat en fin d'année. Elle est déplacée, mais ça va commencer début 2021. Et il y a des objectifs clairs sur cette période. Donc, il y a des engagements des pays qui ont été pris. Donc, je ne veux pas donner trop de chiffres, mais on est à 54 milliards de tonnes chaque année d'émissions de gaz à effet de serre, équivalent CO2. Si on ne faisait rien, on irait vers 65-70 en 2030. Avec l'accord de Paris, on pourrait aller se stabiliser vers 55 milliards de tonnes. Pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés à long terme, c'est 40 où il faudrait passer et 25 pour 1,5 degré. En gros, donc on voit bien un petit peu, cette période va être charnière. Donc même si les engagements de l'accord de Paris étaient tenus, on est loin du compte. Je l'ai dit, on est sur des trajectoires 3,5 degrés. Et il faudrait en fait faire 3 fois mieux pour 2 degrés, 5 fois mieux pour 1,5 degré. Pourquoi c'est charnière? Pourquoi on prend cette date? C'est simplement parce que c'est le cadre de l'accord de Paris qui a été un succès par son universalité. Tous les pays l'ont ratifié, même, disons, y compris les États-Unis, ils l'ont ratifié, ils vont en sortir. Mais donc, c'est cela la véritable raison. Mais le véritable horizon, c'est l'horizon neutralité carbone. Le véritable horizon de nos sociétés, c'est peut-être plus un horizon pour ta génération, Baptiste, mais je veux dire, le véritable horizon, c'est celui de la neutralité carbone. Parce que si on veut stabiliser le climat, il faut absolument atteindre neutralité carbone. Et la stabilisation surviendra quelques décennies plus tard.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la neutralité carbone ? C'est le rapport entre l'absorption
et
en neutralité.
C'est vous, scientifique. Hein.
Vas-y.
Non, la neutralité carbone, c'est lorsqu'on émettra autant de CO2 que ce que la Terre peut absorber. Donc on a deux puits de carbone, c'est les océans et les forêts, qu'on est en train de détruire, les deux. Voilà. Donc, l'exemple le plus criant, c'est l'Amazonie, mais il y a aussi la forêt congolaise, dont on parle absolument jamais, et qui se fait détruire exactement de la même manière, et nos océans qui auront plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Donc on est en train de détruire nos puits de carbone, et on en a grandement besoin. Parce que cette neutralité, c'est donc, le terme de neutralité veut tout dire, c'est lorsqu'on émettra autant que ce qu'on pourra absorber. Sauf que comme notre capacité d'absorption risque de diminuer, il faudra émettre encore moins. Donc ça devient vraiment difficile. Après, pour rebondir sur ce que disait Jean, c'est vrai que l'accord de Paris, c'est une grande victoire. Ça a été signé par tous les pays du monde, malheureusement pas ratifié ensuite. Hein, l'exemple le plus criant, c'est les États-Unis. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on émet 54 milliards de tonnes de CO2 par an, mais si on respecte l'accord de Paris, on passe à 55. Donc on va augmenter, en fait. C'est ça qui est quand même incroyable. Et après, il y a quelque chose que je ne savais absolument pas, donc j'étais loin de me douter, c'est qu'en fait, la pollution de l'air, lorsqu'on émet des fines particules, c'est instantané. Donc là, il y a des risques sur la santé. En revanche, le climat, donc au plus long terme, par exemple, le climat jusqu'en 2040, il est déjà joué, c'est fait. Peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, c'est fini. Le climat jusqu'en 2040, on le connaît. Donc en fait, les émissions que nous allons émettre dans les prochaines années, ce n'est pas pour que le climat se refroidisse en 2025 ou en 2030. Hein. C'est pour qu'il se réchauffe moins dans la deuxième partie du siècle. Et c'est là où c'est extrêmement difficile. On faisait le parallèle avec la crise sanitaire. Quand il y a un virus aujourd'hui, on essaye d'ouvrir des lits de réanimation, on envoie des médecins, on cherche un vaccin. Il y a des preuves, c'est très concret en fait, c'est physique. Avec le réchauffement climatique, on est en train de dire aux gens, alors vous allez agir aujourd'hui, par contre, ce que vous allez faire pendant 20 ans, ça ne va servir à rien. Quoi. Ça va être pour dans 20 ou 30 ans. Et c'est là que le combat contre le réchauffement climatique est extrêmement difficile, parce que ce n'est pas un combat en direct, mais c'est un combat en différé.
Oui, et si j'ai bien lu, il faudrait qu'on, pour atteindre les objectifs, il faudrait qu'on diminue par 6 nos émissions.
Chacun.
Chacun ?
Oui.
Chacun. Et qu'on multiplie par deux notre capacité d'absorption en même temps.
Oui, ça ne peut pas être trop compliqué. Mais si on est à l'échelle planétaire, 54 milliards de tonnes par an. Actuellement, l'océan et l'atmosphère absorbent à peu près 20 milliards de tonnes. Mais il y a 10 milliards de tonnes. Dans les 54, il y en a 10 milliards qui sont liés à l'agriculture, à l'alimentation, à travers le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont difficiles à diminuer. Donc, il faudrait effectivement, en termes de CO2, une tonne par habitant de CO2 pur, sera largement suffisant. Alors, la loi française, je ne veux pas être simple, ça intéresse peut-être des gens, est un peu différente. Parce que, en fait, dans la loi française, on parle aussi de neutralité carbone, et on parle de division par 6, mais en fait, dans la loi, on a le droit de tenir compte que des puits sur le territoire national. Donc c'est très différent. Donc on ne tient compte que des puits de la biosphère. Et en fait, actuellement, en France, on absorbe à peu près 6 à 7 %. Disons, les puits liés à la végétation en France sont à peu près de 6 à 7 % des émissions. Donc il faudrait... L'objectif à horizon 2050, c'est de doubler ces puits, de faire 13-14%, ce qui n'est pas simple. Donc, par exemple, mettre du carbone dans les sols. Et puis aussi, il y a une partie, si on regarde, alors je ne vais pas être trop technique, mais la stratégie nationale bas carbone, il y a aussi une partie, 15 milliards de tonnes de CO2, 15 millions de tonnes de CO2 en France, dont on pense qu'elle va être, ce puits va être fourni par du piégeage et du stockage du gaz carbonique. Donc c'est un peu différent à une échelle d'un pays, l'échelle planétaire, mais on arrive toujours à cette division très importante par 5 ou 6 de nos émissions. Et c'est ça qui est au cœur de... C'est un changement complet de mode de développement de nos sociétés, c'est très clair.
Et pour ce changement de mode de vie d'une société, vous insistez beaucoup sur le concept de justice climatique. C'est-à-dire que pour mettre en place ces mesures, il va falloir trouver des systèmes justes. On a vu bonnet rouge, gilet jaune, deux mouvements qui avaient été déclenchés par des mesures de type taxe carbone ou taxe poids lourd qui avaient été perçues comme injustes et qui avaient généré des mouvements sociaux qui avaient obligé tout le monde à faire un peu marche arrière sur un certain nombre de choses. Justice climatique, moi je trouve que c'est un sujet absolument passionnant parce que vous le développez très bien, vous développez très bien les concepts de compensation, d'équité. Si vous pouvez nous en dire deux mots, c'est un concept très prometteur par rapport à ce qu'il faut faire.
C'est vrai que la justice climatique, c'est un sujet qui nous tenait à cœur, car faire la transition écologique, c'est bien, mais on n'est pas tous égaux devant, car on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous les mêmes émissions. Donc si on taxe les gens en même temps, on taxe ceux qui émettent, mais ceux qui n'émettent pas. Le dernier exemple qu'on a eu en France, c'est de mobilisation après les bonnets rouges, c'était donc les gilets jaunes, qui étaient liés à la taxe carbone, donc avec ces fameux centimes en plus à la pompe, qui au final, après un plein, commencent à compter, et à la fin du mois, encore plus. Et donc, c'est comme ça qu'une grogne est montée, c'est parce que, en fait, c'est les automobilistes, les gens qui font 30 bornes aller, 30 bornes retour pour aller travailler, qui payent, et qui au final payent la taxe carbone. Donc ça posait un problème. Donc sur la justice climatique, il va falloir trouver des solutions. Par exemple, on parle beaucoup de ZFE, de zones à faible émission, aujourd'hui. Elles vont devenir obligatoires. Donc dans une zone à faible émission, par exemple, il y aura des arrêtés préfectoraux selon les villes. Je ne sais pas s'il y en a à Bordeaux, d'ailleurs, sûrement. Et donc ça va enlever soit les critères 5 ou les critères 4 ou les 2. Et ensuite, au fil des années, on va enlever les 3, les 2, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'émissions. Sauf que la personne qui a une voiture critère 5, si on lui a interdit de monter dedans et de s'en servir, il fait quoi ? Il faut qu'il change de voiture. Donc ça coûte cher. Donc tout ça, c'est question de justice climatique. Pareil, quand on dit aussi aux gens, faut pas manger ci, faut manger ça, faut manger du bio, le bio c'est plus cher. Et toutes ces questions-là, on essaye d'en parler. Ça, c'est au niveau national. Et parce que c'est très difficile de mettre tout le monde dans le même panier. En fait, il faudrait que la justice climatique se fasse à l'échelle des collectivités. On est assez attaché à cette échelle-là, car ça touche beaucoup plus les gens. Et si on regarde à l'échelle internationale, parce que le combat contre le réchauffement climatique, c'est à l'échelle internationale. Par exemple, les batteries électriques. Aujourd'hui, quand on va chercher des métaux rares pour faire nos batteries électriques, on ne va pas les chercher en France. Ce n'est pas dans le Jura qu'on est en train de creuser pour aller chercher du silicium. C'est en Afrique, par exemple. Donc là, il y avait un papier des Échos il y a quelques temps qui expliquait qu'il y avait un gros problème de travail des enfants qui allaient chercher les métaux rares dans les mines. Et résultat, c'est nous qui pouvons avoir des voitures électriques. Donc là, ça pose aussi une question de justice climatique, parce que nous, on réduit nos émissions, mais en même temps, on va les transmettre ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc pour qu'il y ait une transition écologique, on insiste là-dessus, il faut absolument qu'elle soit juste.
Et les chiffres sont là. Quand on regarde... Donc l'augmentation de la taxe carbone, je ne sais pas si on le dit dans le livre ou pas, mais telle qu'elle était envisagée donc il y a 2 ans maintenant. Alors, bon, il est évident qu'en termes d'émissions, ce sont les revenus les plus élevés qui consomment le plus et qui contribuent en termes absolus le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Mais en termes relatifs, si on prend par rapport aux revenus, eh bien, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a 2 ans... affectait ou aurait affecté, parce qu'elle n'a jamais été mise en œuvre, en fait, 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus, en termes relatifs. Donc, disons, ce sentiment d'injustice, disons, qui a été, c'est en tout cas, un des déclencheurs de la crise des Gilets jaunes, était tout à fait exact. Donc, le fait que les bas revenus se sentent, disons, vraiment brimé par l'augmentation de cette taxe carbone. Alors, moi, je suis pour la taxe carbone, mais il faut qu'elle soit juste, qu'il y ait des compensations, qu'il y ait aussi... et là où la taxe carbone marche, c'est quand les gens savent à quoi elle sert. Ça, c'est très important. Il y a un autre aspect de la justice climatique, c'est aussi qu'il y a une injustice profonde dans les effets du réchauffement climatique, y compris en France. Disons, quand on regarde des événements comme ces... Par exemple, ces inondations... Il y a peut-être aujourd'hui ou demain d'ailleurs en Provence Côte d'Azur, disons dans ces vallées, celle de l'Hérault il y a quelques semaines, les gens qui habitent dans ces vallées, leurs maisons ne vont plus rien, ils ne peuvent simplement plus quitter l'endroit où ils vivent. Donc on voit bien, enfin pas chaque année, mais pratiquement à répétition, on a ces gens qui sont dans des zones inondables qu'ils ne peuvent simplement pas quitter parce qu'ils ont des bas revenus. Donc ça, c'est un point aussi, disons que les conséquences du réchauffement climatique sont beaucoup plus difficiles pour les bas revenus aussi que pour les revenus. C'est vrai évidemment pour les pays en voie de développement, mais c'est vrai aussi au sein des pays développés comme les nôtres.
Il y avait une étude d'Oxfam qui est sortie il y a très peu de temps qui disait que le pourcent des gens les plus riches sur Terre émettaient 50% des émissions.
Donc ça nous amène toujours à des histoires d'argent, ça nous amène à des histoires de finances. Non, mais il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... Voilà. Et vous posez la question, et vous essayez d'y... Vous y apportez en tout cas des réponses sur est-ce que le modèle capitaliste peut se verdir ? Est-ce que ça veut dire quelque chose, déjà ? Si oui, est-ce qu'il y a des conditions ? Vous n'êtes pas hyper optimiste. Et néanmoins, pourtant, vous affirmez en tout cas que vous êtes capitaliste compatible. Je crois qu'en tout cas, convaincu dans les vertus d'un modèle de type capitalisme, mais tout en disant que tel que c'est actuellement, ça ne peut pas être compatible avec la transition. Je me trompe ou j'ai mal interprété ?
Non, c'est ça. Après, c'est aussi une question de volonté. C'est vrai que le terme capitalisme vert, il fait grincer des dents. Hein. Je sais, c'est sûr que si vous dites ça à l'université de la gauche, il y aura une vague de malaise qui s'emparera de la salle. Le capitalisme vert, en fait, c'est vrai que c'est un gros mot, capitalisme, mais verdir l'économie, en fait, je pense que ça mérite quand même d'en parler. Parce que ce modèle capitaliste, il est très ancré, quand même, aujourd'hui, dans le monde occidental. On va pas se mentir, c'est pas en 2-3 ans que, voilà, que toute l'économie va s'effondrer, et qu'on va, enfin, elle pourrait s'effondrer, hein, mais qu'on va pas la rebâtir sur un autre modèle. Aujourd'hui, il y a une urgence climatique, c'est ce qu'on explique. Il faut que cette décennie soit la décennie charnière de l'action pour que la deuxième partie du siècle soit vivable pour toutes les générations. Et quand on parle en fait de verdir l'économie, c'est parce que les entreprises fassent du profit. Moi, à titre personnel, je m'en fiche, hein, qu'elles en fassent du profit, c'est très bien, hein, s'ils s'en mettent plein les poches. Hein. Tant que c'est bon pour la planète. Voilà. S'il y a des contreparties vertes, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans le plan de relance, avec les 9 milliards pour l'aérien et les 7 milliards pour l'automobile, il n'y avait pas de contrepartie. C'est aussi ça qui manque. Mais s'il y a des contreparties écologiques, qu'on se dirige vers des énergies propres, qu'on oblige les entreprises les plus polluantes, et même celles qu'on soupçonne le moins, les banques, les assurances aussi, à ne plus investir dans les énergies fossiles, des choses comme ça. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut verdir l'économie. Et c'est à travers les entreprises qu'on cite plusieurs échelles. Il y a l'échelle du citoyen, on parlait des 11,6 tonnes par personne. Il y a l'échelle des collectivités, parce que ça touche les gens, mais il y a l'échelle des entreprises, parce que ce sont elles qui produisent les biens aujourd'hui. C'est là où on travaille tous, c'est dans les entreprises. Donc si on verdit l'économie, même si c'est extrêmement difficile et que ça prendra sûrement plus des 10 ans où le temps nous est imparti, je pense que la transition peut passer par là. Et aujourd'hui, on peut le prouver, puisqu'on sait que le potentiel économique de la transition énergétique, et l'énergie, c'est le premier secteur émetteur au monde, pas en France, nous on a de la chance, on a une énergie décarbonée, mais dans le monde, c'est 6 000 milliards de dollars. C'est le potentiel de la transition énergétique. Donc la Chine s'est positionnée dessus, là ils sont en train d'accélérer sur le nucléaire, sur le renouvelable. Les États-Unis, si jamais ils comprennent un jour que ça peut être intéressant pour eux économiquement, ils s'y mettront et ils verront qu'ils pourront continuer à faire du profit tout en respectant la planète. Mais ça demande encore un changement de mentalité qui, à mon avis, demandera plus de temps qu'il n'en faut.
Donc moi, j'aime bien donner quelques chiffres. Alors, toujours pas trop, mais bon, ce sont quand même ceux qu'on a mis en avant avec Pierre Larouturoux quand on a lancé il y a maintenant 5 ans, donc proposition d'un pacte finance-climat pour l'Europe. Donc on est parti d'ailleurs d'un slogan, le constat de la Cour européenne des comptes, c'est qu'en Europe, il faudrait, pour réussir la transition, alors je parle bien de la transition largement énergétique, hein, disons, allez, donc il faudrait à peu près, disons, 1115 milliards par an. Ça, c'est au niveau de l'Europe, d'euros. Alors donc notre slogan, c'était on a mis 1 000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. Hein, donc voilà, c'était, je crois, une des titres des tribunes qu'on avait publiées en 2015 avec Pierre dans West France. Et en fait, ce ne sont pas 1 000 milliards supplémentaires. Hein, au niveau de l'Europe, il faudra mettre 300 milliards supplémentaires chaque année. Au niveau de la France, on met actuellement entre 50 à 70 milliards dans la transition, dans des investissements qui peuvent s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. En France, il faudra mettre 20 milliards supplémentaires chaque année. Alors, pas simplement, c'est pas que l'État, c'est le public-privé. Hein. Disons que si l'État mettait déjà 7 milliards chaque année, faudra arriver à 20 milliards avec de l'argent public et l'argent public, enfin, et des investissements privés. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ce chiffre de 20 milliards chaque année créateur d'emplois. Hein, on parle de 600 000 à 900 000 emplois nets en France d'ici 2050, 6 millions d'emplois nets d'ici 2050 au niveau européen. Eh bien, ce n'est qu'une fraction. On a, disons, écrit une tribune avec Baptiste, on a publié une tribune, disons, ce printemps. Ce n'est qu'une fraction, vraiment, de ce qu'on a mis sur la table pour faire face à, disons, à la pandémie. Hein. Simplement, pour la sortie de crise, on a déjà mis, je crois, au moins 300 milliards au niveau français. Donc, ça montre que, effectivement, l'argent, disons, ce n'est, l'argent est là et pourrait être mis sur la table. C'est une question de volonté. Donc je pense qu'il est toujours temps. Techniquement, ça reste possible. Déjà, si on restait autour de 2 degrés, ce serait bien, mais ça reste techniquement possible. Quand la Chine annonce neutralité carbone en 2060, ils ont dû un peu réfléchir quand même. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus être complètement pessimiste, mais bon, c'est un changement de société complet et assez radical quand même de fonctionnement de notre société.
D'accord. Alors, avant de passer à la question du public, vous dites que c'est encore possible. Les raisons d'espérer, les motivations, l'optimisme, on le trouve où ?
Bah, chez les jeunes.
On essaye. Disons que j'ai 25 ans. J'ai pas le droit d'être pessimiste. J'ai envie de dire que je le suis, mais j'ai pas le droit de l'être. Notre génération n'a pas le droit d'être pessimiste, parce que si ma génération l'est, c'est bon, on peut tout arrêter, c'est rouvrir des centrales à charbon, et il y a de là. Hein. Non, on peut pas être pessimiste parce que on sait. La génération avant et celle de Jean, je veux bien croire qu'ils savaient pas tout. À partir des années 90, commençait à y avoir des alertes. Aujourd'hui, notre génération, si elle a commencé à militer, enfin, au début en tout cas, c'est parce qu'elle sait. Elle sait ce qui se passe. On le voit. Aujourd'hui, vous allumez la télé, vous ouvrez les journaux, comme c'était rappelé au début, je fais de la veille médiatique. Je passe ma vie dans les médias. Et on en parle tout le temps, l'écologie. Vous ne pouvez pas passer à côté, ce n'est pas possible. Il y en a tout le temps. Il y a des dizaines de pages dans les journaux tous les matins. Il y a des dizaines d'émissions tous les jours sur l'écologie. On sait tout. Donc, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec leurs ouragans, maintenant, on ne sait même plus comment les nommer, parce qu'à chaque fois qu'on les nomme, on passe dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, on est déjà arrivé à Z cette année. On ne sait même plus comment les nommer, tellement il y en a. C'est la première fois que ça arrive. Quand vous voyez... qu'aujourd'hui, le Groenland et l'Arctique sont en train de fondre, qu'on a atteint le point de non-retour. La vague caniculaire qu'on a eue l'année dernière fin juillet, celle du mois d'août cette année dans les milieux urbains, quand vous voyez les îlots de chaleur qu'on a, que ça devient invivable dans les passoires thermiques qu'on a, il y en a énormément, il y en a des millions en France. Quand vous voyez ce qui se passe absolument partout, que quand vous regardez sur une carte les îles du Pacifique aujourd'hui, regardez-les bien, hein, parce que dans quelques années, il va en manquer la moitié. Donc, on sait tout ça. Et que les autres générations n'aient pas agi avant, ok. On ne savait pas tout. Aujourd'hui, nous, on sait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut forcément être optimiste parce qu'il faut agir. Et sans optimiste, on n'agit pas.
Ouais, donc moi, j'étais plus optimiste après l'accord de Paris, disons en 2015, hein, début 2016. Mais c'est vrai quand même que pour moi, l'élection... Il y avait une certaine dynamique qui s'était créée. Hein. Tous les pays avaient... Ils ont signé, tous les pays ont ratifié quand même ensuite. Et cette dynamique, elle a été complètement mise à mal par l'élection de Donald Trump, c'est très clair. On est dans le même contexte qu'en l'an 2000, où le protocole de Kyoto, une des raisons de l'échec du protocole de Kyoto, c'est effectivement l'élection de George Bush hein, pour 8 ans. Tout a été... Disons, le protocole de Kyoto était... Ils ont correctement dimensionné. Alors, personne n'avait imaginé que la Chine, les émissions de la Chine doubleraient ou presque tripleraient dans les années 2000. Mais voilà, donc c'est aussi une autre raison, l'émergence des pays émergents. Mais c'est vrai que les États-Unis ont joué un rôle malheureusement essentiel, mais négatif, au cours des 20-30 dernières années, dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors qu'ils auraient pu, ils auraient dû prendre le leadership, y compris économiquement. Et donc, je suis moins optimiste. Alors bon, j'ai retrouvé un peu d'optimisme avec l'annonce de la Chine. Ça peut paraître bizarre, mais je me dis, s'ils y arrivent, les autres seront obligés de suivre. Bon, l'Europe essaye aussi d'être dynamique, mais on voit bien que c'est plus dans les textes que dans les faits. Et bon, je dis franchement que, si Joe Biden était élu, une annonce des États-Unis de neutralité carbone en 2050 mettrait quand même un peu de baume au cœur. Donc cet optimisme que j'avais après 2015, je retrouve peut-être dans un mois maintenant. On n'est pas au 3, mais dans quelques semaines. Si Trump est réélu, ça sera quand même plus difficile.
Oui, on avait juste aussi un message pro-européen quand même dans ce livre. Parce que c'est vrai que la Chine, elle est seule à décider. Les États-Unis sont seuls à décider. En Europe, on est 27. C'est très difficile. En plus, on est en train de vivre une crise démocratique en Europe qui est vraiment très grave. C'est vrai, quand on se dit qu'il faut décider avec Orban, la Pologne, nous, Merkel, on n'a rien à voir. Comment est-ce qu'on va faire une politique énergétique commune? Et on croit profondément en cette Union européenne. Moi, en tout cas, je suis profondément européen autant que français. Je tiens beaucoup à l'Union européenne. Et je pense que la transition écologique peut nous rassembler, les 27 États autour de ça.
Alors, je trouve que vos axes d'optimisme sont vraiment des signes des temps, que ce soit les jeunes... Les promesses chinoises, plutôt que les actions américaines, c'est quand même un signe des temps. Et puis l'Europe, je trouve ça, ça fait une belle conclusion avant de passer aux échanges.
Attention quand même à ne pas détourner les yeux de ce qui se passe en Chine, parce que la neutralité carbone, c'est une chose en 2060. En revanche, je tiens à dire qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe à l'Ouest,
oui.
Et qu'on est quand même dans la plus grande déportation de masse du 21e siècle actuellement en Chine.
Faites bien de le rappeler.
C'est vrai.
C'était pas un blanc-seing chinois que je disais. C'était un signe des temps.
Non, pas du tout. Mais je n'idéaliserai jamais la Chine, même s'ils atteignent la neutralité carbone.
Donc je vous remercie très chaleureusement tous les deux de nous avoir permis cette prise de hauteur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Climat, parlons vrai, aux éditions François Bourin.